Oui, je suis tout à fait hors de ma sphère habituelle, mais c'est néanmoins l'occasion pour moi de parler d'un auteur que j'ai trouvé extrêmement intéressant, donc Paul Di Filippo, qui est né le 29 octobre 1954, près de Providence, et on verra que ce n'est pas sans incidence avec le propos de ma communication, si vous vous souvenez de quel grand autre auteur américain est aussi lui né là-bas. Auteur prolifique dans le domaine de la science-fiction, il est aussi critique pour les principaux magazines du genre, et au sein de la mosaïque de la SF, de la science-fiction américaine contemporaine, il est notamment connu pour des textes qui relèvent du genre, je viens de le mentionner, dit steampunk. Alors steampunk, que je traduirais... Oui. Que je traduirais... Je dévoilerai après le... Donc steampunk, qu'on peut traduire en français, qu'on traduit d'ailleurs souvent, bien qu'improprement, par futur à vapeur. Donc, c'est simplement un genre basé... sur une bifurcation uchronique, le cadre est en effet un 19e siècle, ou ses environs temporels, à l'ambiance victorienne du fin de siècle revisité, où la technologie, notamment celle des machines à vapeur, se serait développée dans des directions différentes de celles de l'histoire réelle. Il s'agit là, dès le départ, d'un genre qui est marqué par une atmosphère et un contexte qui relève déjà presque génétiquement de l'intertextualité, le nom même du genre, d'ailleurs, étant formé à partir d'un autre genre, connu qui est le cyberpunk et qui lui est une extrapolation basée sur l'univers de la matrice et donc de l'univers informatique. Dans la trilogie steampunk, donc parue en 1995 et traduite en français en 2000, comme le remarque Pascal Thomas, Di Filippo, et je le cite, Pascal Di Filippo prend le mot steampunk dans le seul sens qui vaille, celui d'une vaste plaisanterie. Prétexte à la manifestation de ses talents de faussaire littéraire bien documenté. Des trois longs récits hypertextuels qui composent ce recueil, je retiendrai le second et le plus long, Hottentotes, ou Des Hottentotes en français. Les deux autres textes ne sont d'ailleurs pas inintéressants, et j'évoquerai très rapidement le troisième, qui s'appelle Walt et Emily. Les deux personnages principaux sont donc, vous l'aurez compris, deux poètes américains, Emily Dickinson et Walt Whitman, qui vont entreprendre un voyage à travers l'espace et le temps par l'intermédiaire d'une mystérieuse médium qui s'appelle Madame Céavi, et dont l'esprit spirituel s'appelle Nuage Rose. On aura reconnu l'intertextualité. Il se retrouve au pays de l'éternel été, où il croise un jeune enfant qui porte le nom d'Alan Ginsberg. Je n'en dis pas plus, vous vous en doutez, on a là aussi un chef-d'œuvre d'intertextualité qui, à chaque page, met dans des situations très décalées deux ou trois extraits tirés de la poésie américaine du 19e, voire du 20e siècle. Et c'est assez drôle à lire, et c'est assez riche aussi, mais je vais me concentrer plutôt ici sur le deuxième texte, donc des autres. L'incipit de Tantot consiste en la description d'un spécimen qu'un marin américain est venu vendre à un scientifique suisse, Louis Agassiz, qui est le personnage principal, un expert en paléologie, ichthyologie, zoologie, docteur en médecine et héritier de Cuvier. Vous avez donc la citation dans l'exemplier que je vous ai donné. Je la résume très simplement. On a affaire ici à une créature qui semble composée de deux moitiés de poissons cousus ensemble. La description est assez éloquente, assez horrifique, et je la saute puisque vous l'avez, et je ne mentionne que la réaction du savant. En regardant l'horrible poisson, Agassiz vit soudain incarner en lui toutes ses peurs du métissage. Avec un frisson, il évoqua la créature assemblée et cousue de la même façon, née de l'imagination de Mrs. Shelley. Et si la nature permettait un jour de fabriquer de tels monstres, l'imaginer était encore trop. Je paraphrase, et si la littérature, à travers le pastiche et la parodie, permettait un jour de fabriquer de tels monstres composites, l'imaginer ne serait pas encore trop. C'est ce que fait justement Di Filippo en convoquant, plus loin dans son récit, après cette référence au monstre de Frankenstein, deux grands auteurs américains, Melville et Lovecraft, donc pour Providence, dont deux des plus connues créations monstrueuses, je serais tenté de dire, se trouvent accolées dans le titre du chapitre 9, Moby Dagon. et d'amont pour une des créatures qui peuplent l'univers de Lovecraft. Alors, je vais être obligé de faire un résumé, malheureusement, très très succinct de ce qui se passe dans cette nouvelle. Entraîné à la recherche du puits de la création avec des majuscules, d'où un affreux sorcier Boshiman voit l'aide d'un incroyable artefact, qui est en fait le tablier de la Vénus Hottentote, conservé en bocal par Cuvier, convoqué les pires monstruosités, le savant se retrouve sur un navire américain chargé d'empêcher la cérémonie pour les aider, le capitaine, à engager un harponneur expérimenté, je cite le texte, professeur Agassi, voici Melville. Melville a parcouru les sept mers, etc. En outre, il partage le penchant pour la littérature. Peut-être avez-vous lu l'un de ses mémoires et sont cités les premiers récits autobiographiques de Melville. Melville tend une patte calleuse, appelez-moi Herman. Ils ont bien besoin d'un tel secours car ils vont être confrontés à un monstre aussi affreux et symbolique que le gigantesque cachalot blanc. C'est une des pires divinités du mythe de Cthulhu, donc de Lovecraft. Et on va donc avoir dans le texte une parodie éhontée et forcenée de tous les éléments typiquement lovecraftiens. Alors on a des histoires qui reprennent, vous les avez dans les Templiers, je vais les sauter, bien que ce soit assez drôle. Et puis on a même une mention directe. Ils, c'est donc ces affreux êtres humains qui pactisent avec les démons, ils s'associent avec les pires spécimens du peuple écailleux, aussi souvent qu'ils peuvent. Ils vénèrent les mêmes dieux qu'eux, des dieux comme Dagon et, je reprends mon souffle, Pahuanuiapapitaterai, ces pandas aident les tritons à exécuter leur projet obscur et diabolique. Un de ces types, pas le pire, je suis content de le dire, est même là, Howard Phillips. Bien évidemment, sont les prénoms de Lovecraft. Donc on reconnaît sans peine des insertions intertextuelles qui fonctionnent comme autant de clins d'œil appuyés. Alors il y a la rivière Miskatonic, il y a les noms des personnages qui font référence à des personnages de Lovecraft, il y a la ville de Marblehead, qui est la ville dont Lovecraft s'est lui-même inspiré, qui est réelle, donc s'est lui-même inspiré dans ses histoires. Tout est réuni ici pour convoquer Dagon, une des pires monstruosités du mythe de Cthulhu. Le nom que j'ai essayé de prononcer bien maladroitement n'est pas du tout une référence à Lovecraft, c'est véritablement un vrai démon du folklore tahitien. Donc peut-être donc, que tu le prononceras certainement par rapport au premier texte. Le cauchemar d'Innsmouth, donc de 1932, de Lovecraft, qui sert de référence intertextuelle majeure au récit, ici, est encore parodié plus avant dans le texte. Dit Philippot, n'hésitant pas à tourner en ridicule les tics sémantiques, et ils sont nombreux, de Lovecraft. On cite un exemple. Puis il redescendait en rampant dans les rues tortueuses non euclidiennes, hurlant et ululant en mesure avec la fanfare, certains citoyens sans jambes, traînant dans la poussière leur corps squameux et puant. Ils se hâtaient vers le front de mer où ils étaient accueillis par leurs infâmes cohortes, venus du fond dégoûtant des mers. Frappé de stupeur, l'auditoire des marins garda le silence. Puis l'un des marins prit la parole. Qu'est-ce que ça veut dire, nanoclitienne? Et squameux, enchaîna l'autre, ça a à voir avec les spo-indiennes? Donc ici, une déconstruction des tics stylistiques de l'auteur. L'intertextualité s'accompagne ainsi en permanence d'une volonté parodique. Ainsi, lorsqu'un certain Alphonse Louis Constant, personnage historique de médium, est présenté au savant, l'individu affirme « Mon nom est Eliphas Lévi, mage de Sarnac, voyant du Kadat inconnu. » Là aussi encore autant de références à la mythologie construite par Lovecraft. Le voyant rentre en transe et se met à proférer une voix rauque, un chapelet de syllabes gutturales dénué de sens. Pour Agassi, cela ressemblait à Yi-Yi, Chouchoub, Nègre, Fourou. On verra que le mot de nègre n'est pas innocent ici. La traduction française rend mal hommage à l'original anglais, puisqu'ici on a un décalque d'une de ces marques exolinguistiques qui parcèlent l'œuvre de Lovecraft, Yarya Shib-Niggurak, qui est le nom aussi d'une divinité sombre. Ce qui est intéressant ici, c'est que dès la manifestation intertextuelle effectuée, elle est déconstruite. Ainsi, Agassi s'empresse de dire « Un superbe spectacle, messieurs, puis-je m'y joindre ? Youpi, Pi-Yo-Yo, la vengeance de Sambo. Évidemment, on ne veut rien dire. Bon, c'était très amusant. Si jamais j'ai besoin d'un divertissement pour l'anniversaire d'un enfant, je ferai appel à vous. D'une manière similaire, la mention de Toulouse et la reprise des éléments, des phrases les plus emblématiques du Necronomicon, qui est le livre secret du mythe, climax du récit, lorsque Dagon apparaît, participe du même effet de distanciation et de décalage parodique. Redescends, redescends, Dagon, Toulouse te l'ordonne, retourne dans tes vastes profondeurs marines, dors pendant les éons à venir. Le monstre recula, comme un chiot effrayé, à chaque fois en redescendant. La parodie lovecraftienne n'est pas une nouveauté ni une singularité. Hein. Les montagnes hallucinogènes d'Arthur Clarke sont un plagiat des montagnes hallucinées, paraît seulement 4 ans après l'original. Mais Di Filippo semble dépasser la simple parodie pour aller plus loin dans cette déconstruction. En effet, et je ferai une autre parenthèse ici, une autre voie intertextuelle dans ce récit, c'est une science ridiculisée. Quand on nous décrit la bibliothèque de Louis Agassiz, on nous dit plusieurs bibliothèques vitrées contenaient des rangées de gros livres scientifiques, de l'inné à l'IL. Donc le classement de la bibliothèque va de LI à LY. Par le biais d'une savante taxinomie, pourtant rigoureusement exacte, on impose dans le texte une subjectivité très fantaisiste. À chaque page, toutes les choses sont comparées à un animal et à chaque fois est donnée entre parenthèses la taxinomie latine entière. Donc un exemple, Josiane Dogberry ronflait comme une syrie du Maine, comme un ornithorynque. Ornithorhynchus anasmus, asthmatique, comme un castor du Michigan, castor fidère michiganisme. Et c'est comme ça, avec une régularité qui est proprement effrayante, ces interludes latins, taxinomiques, viennent scander tout le texte en créant à chaque fois des décalages extrêmement drôles. Un des exemples les plus marquants d'ailleurs, c'est l'apparition de Dagon lui-même. Vous devez l'avoir dans les Empiliers. On lui décrit alors une tête grosse comme une locomotive, il avait un fond fuyant et une police brillante et tachetée. Ses yeux étaient grands comme des roues de charrette, la tête soutenue par un cou épais comme l'une des colonnes corinthiennes de l'église centrale congrégationniste de Winter Street monta, monta dans le ciel nocturne. À la suite du coup apparut un corps couvert de vernacles, etc. Et le savant s'écriait : ce n'est pas un monstre surnaturel, seulement un lézard poisson éteint depuis longtemps, un ichthyosaure. Alors c'est une réflexion assez étrange puisqu'on insiste sur le coup de l'animal. L'ichthyosaure n'a pas de cou. Hein, enfin, semble vraiment un poisson, n'a pas de cou. Donc ici, je ne peux pas m'empêcher de penser à Jules Verne, puisqu'il fait combattre, hein, dans Voyage au centre de la Terre, un ichthyosaure et un plésiosaure, c'est-à-dire un plésiosaure. Et ici, c'est évidemment aussi une lecture complémentaire, c'est le monstre du Loch Ness, c'est Nessie. Donc ici, il y a un mélange juste dans la créature, des genres qui établit plusieurs niveaux entre imagerie populaire et imagination littéraire. Puisqu'on sait très bien que les descriptions des textes de Jules Verne sont des décalques mot pour mot de manuels scientifiques. Notamment ici, dans les descriptions des animaux préhistoriques, car il les a pris dans un manuel suisse d'ailleurs. Bon. Le retour à la science tournait ainsi en dérision toutes les superstitions en même temps qu'elle discrédite toutes les anticipations et spéculations littéraires entrevues comme des hybridations à la date de péremption bien vite dépassée. Ainsi, et peut-être que vous en doutiez, la créature que j'ai évoquée en ouverture n'est pas née des talents de brodeur d'un marin. Hein. Mais elle n'est pas non plus réelle. Autrement dit, ce n'est pas un monstre, ce monstre composite du départ. Ce sont deux poissons qui ont été coupés en deux par un espadon. Un espadon particulier, puisqu'au bout de son appendice, il a un chat, avec un S. Et utilisant les cordages du bâton, il a ensuite cousu lui-même les deux moitiés de poisson qu'il avait éventrées peu auparavant, et donc qui ouvrait le récit. Qui est le monstre alors? Le véritable monstre serait-il non pas le texte, cousu, mais le romancier qui, à l'instar de l'espadon couturier, construit sa propre prose. Et je ferai une autre citation qui a trait à l'intertextualité ici. Vous m'excuserez, je ne garde pas l'accent du sorcier Bushiman. Hein. Ah, j'aurais dû consulter quelqu'un d'expert. L'enquête patine. N'arrive pas à retrouver le fameux tablier. Ah, j'aurais dû consulter quelqu'un qui avait une expérience en ce domaine. Comme peut-être cet écrivain, Edgar Poe, quelqu'un capable de créer un personnage comme cet opus de Dupin, pouvait résoudre ce simple mystère. Réponse d'Agassiz. Ne me faites pas rire, ce journaliste est un rêveur alcoolique. Avec son histoire de carte creuse et le reste. Et puis sa moralité est abominable. La référence littéraire n'est évidemment pas innocente en contexte, mais ici, ce qui attire mon attention, c'est la mention de cette histoire de terre creuse, puisqu'il n'y a aucun texte de Poe qui mentionne ou qui fasse appel à une terre creuse, c'est-à-dire un voyage vers un monde, à l'intérieur du monde. Hein. Une rumeur tenace, pourtant, prétend que Poe avait l'intention d'écrire une histoire de ce type, peut-être justement, dans les aventures d'Arthur Gordon Pym, dont la fin ouverte pourrait laisser supposer un tel voyage. Je mentionne en passant que Lovecraft récupère dans l'œuvre de Poe le fameux Tekili Lili pour le réutiliser dans les montagnes hallucinées. Que Jules Verne aussi écrit la fin de l'histoire de Poe dans le Sphinx des Glaces. Et que certains commentateurs voient dans la vision qui intervient à la fin du récit de Pain de cette gigantesque forme blanche, voit évidemment dans cette forme le blanc fantôme immense qui ressemblait à une colline dans l'espace, et là je cite, qui est relié. Donc tout se semble se relier. Ce qui me semble impossible d'éviter avec cette histoire de terre creuse, et ce qui apparaît aussi dans le texte avec l'apparition secondaire d'un chevalier teutonique, inspiré des roses croix et de mains de sociétés ésotériques, c'est des références qui excèdent, enfin qui transitent par la littérature et notamment à travers le récit de Bulwer-Lytton, qui est une histoire de terre creuse, et qui font le rapprochement entre les théories de la terre creuse et l'utilisation qui en a été faite, notamment par les sociétés nazies. Hitler, on le sait maintenant, ayant été lui-même convaincu qu'il y avait une terre creuse. Alors, c'est l'inverse, hein. C'est nous qui sommes dans la terre creuse, et notre terre au-dessus. Peu importe, c'est relié au mythe du surhomme. Alors, ça pourrait sembler tirer un petit peu par les cheveux tout ça, très clairement, parce que la ramification intertextuelle, pour le coup, je la pousse pas assez loin. Ce qui me fait aller dans cette voie, c'est que, dans tout le texte, dans tout le récit, on va voir le personnage principal, Agassiz, déployer à longueur de page une rhétorique raciste clairement inspiré des pires théories créationnistes, dont certains d'ailleurs des ouvrages fondateurs sont explicitement cités dans le texte. Contemplant le poisson hybride qu'on a évoqué au début du texte, Agassiz pense ainsi à une lettre qu'il a écrite à sa mère et où il fait une description des Noirs qu'il a croisés lors de son arrivée aux USA, qui est affreuse. Où est-ce que je vais? Je vais essayer de mettre là-bas. La lettre est un petit peu longue, bien que c'est... Alors, je vais prendre un extrait du cours en équipe. Donc, juste un extrait, vous jugerez un petit peu de la tonalité du texte et le pire composant du mélange, le courant le plus ignoble. Là, il parle de la façon dont s'est façonné le peuple américain. Le plus pollué, introduit dans le fleuve boueux qui était l'Amérique. La souillure la plus choquante du sang putatif de l'homme blanc, contamination qui empestait jusqu'aux cieux et violait tout ordre moral, c'était le nègre. Et dans tout le texte, on va se heurter inévitablement à un racisme et à une misogynie incroyable de la part de ce personnage. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on sait très bien qu'à l'origine, le texte de Lovecraft, on trouve le racisme. Et ici, je ne développerai pas parce que ça a été fait par d'autres, et je renverrai simplement à un seul essai qui a été publié en français de William Schnabel, dont le titre se passe de commentaire, Lovecraft, histoire d'un gentleman raciste. la construction du mythe de Cthulhu et des récits Lovecraftiens, elle puise, et on le sait par ses lettres, hein, puise dans le racisme très très fort de Lovecraft. Et ici, on le retrouve directement par le biais de cette intertextualité, on va chercher cette dénonciation-là. Donc d'une manière très différente de celle utilisée par Norman Spinrad dans son Rêve de fer en 1972, le texte de Guy Philippeau pourrait alors se lire comme une tentative pour mettre en lumière des liens psychologiques ténus mais persistants entre l'imagination monstrueuse du récit d'horreur fantastique des siècles derniers et les penchants xénophobes. Alors, je vais passer un petit peu vite, simplement pour dire qu'on retrouvera en permanence cette déconstruction liée à l'intertextualité. Le fameux Espagnol Couturier, il finit dans un aquarium et il fabrique des robes pour la femme du pêcheur. Des robes à la mode du gay Paris, nous dit le texte. Mais elle le fait trop travailler. Il finit par en crever, un pauvre père, nous dit le texte. Il est empaillé et il servira finalement d'épée à Louis Agassiz dans un duel final où il transperce son adversaire avec cette aiguille ictioïde. Donc, une destinée tout à fait ridicule qui, à mon avis, reflète bien cette pratique de l'intertextualité qui est d'embaumer par une surcharge, par une indigestion du texte, qui est d'embaumer les textes auxquels on fait référence pour en dégager ce qu'ils peuvent avoir de plus souterrain et de plus malsain, et puis au final, de n'en faire qu'une aventure, qu'une narration, qu'une simple péripétie. Je citerai une seule autre citation et puis je m'arrêterai. Je trouve assez drôle. Il est emprisonné. Comment s'intitulait ce roman de Paquetti qu'il avait lu sur le bateau qui l'emmenait en Amérique? Ah oui, Le Comte de Monte Cristo. Comment le héros avait-il fait pour s'évader? N'avait-il pas creusé un tunnel avec une cuillère? Agassiz fit l'inventaire du contenu de ses poches. Un crayon, fabriqué dans l'usine appartement à la famille de Taureau, qu'il a aussi rencontré. Les notes de sa conférence récupérées à la hâte, sur des mules, quelques pièces de monnaie, une montre à gousset et un mouchoir. Son plan était clair. Il griffonnerait un petit mot d'adieu, soudoirait le geôlier pour qu'il le poste, attendrait minuit sonnant, puis se garrotterait avec son mouchoir. À chaque fois, l'intertextualité, même sous une forme ridicule, mène à la mort, et c'est à ceci que je voulais mon arrivée. En faisant une simple dernière réflexion, c'est que même la mort et les choses les plus graves, si la science et les pires théories passionnistes, le récit s'achève hein, d'ailleurs sur la publication du premier ouvrage de Darwin, et la dernière phrase de cette longue nouvelle, de cette novella, c'est « Et il n'y eut jamais d'enfant ». Et je crois que cette phrase, il faut la lire à plusieurs niveaux, scientifiques, évidemment, littéraires, mais aussi intertextuel.